but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just won one. You might win some, but you just lost one.
You might win some, but you really lost one. You just lost one. It's so silly. How come when it's all
universal law, what you throw out come back to you star. Never underestimate those who you scar, cause comma, 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 come back to you hard. You can't hold God, people back that long. The chain of shaitan wasn't made that strong. Trying to pretend like your word is your bond, but until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this just a simple song, and some don't know what they have till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn, and from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might shine, and some may think that they've reached perfection. If you look closely, you'll see what you become. Cause you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one.
Son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt. Into outer space to find another race. I'm gonna send into outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah.
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission de Génération Sport. Il est 20h04, on est le mardi 24 octobre et on est toujours là pour vous résumer les actualités locales et internationales de la semaine. Avant de passer au sommaire de l'émission, je vais présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir. On a Cédric à la régie, salut Cédric.
Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec des hauts et des bas pour le sport en juin et le sport français en règle générale.
C'est vrai. Est-ce que tu as regardé aussi le circuit de F1?
Oui.
Parfait.
C'était bien pour dormir.
Comme bien souvent, j'ai l'impression.
Ouais, non, mais enfin, on en parlera tout à l'heure, mais
tout à fait.
Les rebondissements étaient pas forcément sur la piste, mais plus sous les voitures.
On a aussi Clément qui est en face de moi. Salut Clément.
Salut à tous. Salut Faustin. Ce week-end, troisième tour de Gambardella qui s'est soldé par une victoire 2-0 malgré un arbitrage plus que désastreux. Mais ça, on va pas trop en parler. Et puis voilà. Du coup, quatrième tour ce week-end et puis on verra ce que ça donne.
Ça joue contre qui?
Ça joue contre Saint-Hilaire-Vier et possible. Je crois que ça sera, si on passe, le record du club. Donc
ah ouais.
Ouais. C'est une belle épopée.
Ça marque l'histoire.
Ouais. Et toi, t'as marqué l'histoire du côté d'Avrier ou?
Ah, c'est vrai que je l'avais annoncé la semaine dernière. J'avais un match contre la N2 féminine et on a gagné du coup de 30 points, il me semble. L'occasion aussi d'introduire le fait que la semaine prochaine, si tout se passe bien, on aura... Enfin non, pas la semaine prochaine, le mois prochain, pardon.
Non, la semaine prochaine.
Dès la semaine prochaine?
Oui.
C'est ce qui est prévu.
Il y a encore une émission, le 31.
Ah oui, mais il me semble que c'est pas l'émission dans laquelle on recevra Frédéric, le coach.
On va recevoir quelqu'un du club le 31, mais effectivement, ce sera pas une joueuse exceptionnellement. On va changer le format.
Ce sera pas le même club dont je parlais, surtout. Mm-hmm.
Il parlait d'Avrier.
Moi, je parlais de...
Ah, tu parlais d'Avrier.
Ouais, de la N2 d'Avrier. On recevra le mois prochain Frédéric Cosset, normalement le coach de la N2. Mais c'est vrai aussi, comme tu le dis, on recevra du coup la semaine prochaine, le responsable communication...
C'est ça.
Partenaire, enfin responsable partenaire. Ouais, voilà. Il y a aussi un peu de la com.
De l'UFA. Lié
au club, ouais.
Donc voilà pour ce qui va se passer dans nos prochaines émissions. Au menu ce soir, pardon. Du coup, des actualités locales comme d'habitude. Une petite chronique de ma part sur de l'e-sport avec la Carmine Corp qui passe en LEC. Après, on aura les actualités internationales. Et pour finir, je vous ferai une grande preview de la saison NBA qui commence dès ce soir à 1h30.
On a hâte.
Ah, okay. On va sécher, on va devenir insomniaque dès le début.
C'est ça.
Du coup, on va commencer sans plus tarder avec les actualités locales. Et Clément, tu vas nous parler de la victoire du SCO qui a eu lieu ce week-end.
C'est ça. On va parler du SCO foot parce qu'après, je vais vous parler du SCO handball, mais c'est un petit peu moins glorieux. Notre équipe angevine, elle est en pleine bourre. C'est la cinquième victoire de suite. Et d'après vous, les gars, c'est pas arrivé depuis combien de temps?
Moi, je connais la réponse.
Ouais.
Je te l'ai donné avant.
90 ans?
Non.
Non. Peut-être remonter aux années où on squintait un peu la première place, je dirais.
Mm-hmm.
Donc, allez, il y a 2-3 ans.
Oh, enfin, ouh là là. Non, on était encore en Ligue 2. Hein. On
était encore en Ligue 2. Et... Entre-temps, il y a eu la Ligue 1. Entre-temps,
alors, 94, c'est la redescente en Ligue 2. On y reste longtemps. Donc ça doit être dans ces années-là.
Les années 80, on n'était peut-être pas en Ligue 2 alors.
Si, on était en Ligue 2. C'était en 92.
92. Ça fait maintenant 31 ans.
Ah oui, 91, ils montent. Ils font une année limite à l'image de celle de l'année dernière. Et oui, ils redescendent direct.
Ah oui, ok. Bon, voilà, du coup, c'était la cinquième victoire de suite ce week-end face à Bordeaux. Et nos scoïstes ont maîtrisé leur match. Avec du beau jeu, j'ai pu regarder 10-15 minutes. Et franchement, ça fait plaisir de voir le SCO jouer comme ça. Le score c'est conclu sur un 2-0. Pour les joueurs d'Alexandre Dujeu qui prennent les devants à la 33e grâce à une boulette du gardien bordelais et cela mène à un but de Lopi. Ensuite Baoya agrandit le score sur un magnifique jeu en triangle à la passe Ferrat qui je crois est le meilleur passeur de Ligue 2 ou dans les meilleurs passeurs. Ouais. Et donc à la 60e minute les Angevins scellent le score qui se termine sur 2-0. Encore une fois, Yaya Fofana a fait une belle prestation avec des arrêts décisifs et ce match plus que satisfaisant. grâce à ce match plus que satisfaisant, pardon, le SCO coule Bordeaux et grappille une petite place pour monter sur la deuxième marche du podium à deux petits points de Laval. Donc c'est peut-être la première place pour ce week-end.
C'est ce week-end le match retour
De Laval contre Laval.
Non, c'est pas ce week-end.
Non.
Ah oui, tu disais pas la première place.
Oui, mais imaginons que Laval perde, on passe devant eux, quoi.
C'est vrai.
Et donc ils joueront lundi soir à 20h45 face à Saint-Étienne, une affiche qui donne envie vu la forme des deux équipes. Je le rappelle, Saint-Étienne vient de battre Laval, donc qui termine la série de Laval de 7 victoires.
Pardon. Ça fait extrêmement plaisir de revoir le SCO gagner comme ça et bien jouer en plus. Hein, c'est...
Ah oui, surtout on avec la manière, c'est ça.
On a perdu cette habitude, je crois, l'année dernière. Cédric, j'ai l'impression que tu as quelque chose à dire.
Ouais, dernière confrontation du SCO contre Saint-Etienne, ça date d'il y a deux ans. Et à domicile, ça avait fait une victoire de Saint-Etienne. Et il faisait froid. Il faisait froid déjà à l'époque.
Petite anecdote, j'ai tiré les pénaltys à la mi-temps de ce match et j'ai raté mon pénalty.
Ouais, mais c'était infernal.
Mais il faisait super froid.
Il faisait super froid. Et...
C'est déjà un palmarès.
Ouais, j'ai tiré les pénaltys au score.
Un petit flex que tout le monde n'a pas.
En même temps, quelle idée de reporter le match.
Oui, ça avait
été reporté. Il avait été reporté pour je ne sais plus quelle raison. Ouais.
Et bah ça alors. On va maintenant passer à un autre SCO. SCO Vendre, Clément.
C'est ça. Et là, c'est un petit peu moins glorieux puisque le SCO rencontrait vendredi soir Célesta. Et malheureusement, c'est une deuxième défaite de rang. Les joueurs d'Issam Tej s'inclinent 31-28 et se retrouvent à la 10e place avec un bilan assez mitigé de 4 défaites et 3 victoires en 7 matchs. Et je rappelle qu'ils étaient 6e il y a de cela 2 journées. Donc là, c'est un petit peu une phase compliquée pour nos scoïstes qui, on l'espère, vont se relever au prochain match.
Ouais, on leur souhaite que ça, en tout cas. On va maintenant passer aux résultats du basket. Et je vais commencer sans plus tarder avec l'EAB qui essuie sa première défaite en championnat au bout seulement du deuxième match. C'était contre Gris Souffel sur le score de 88-75. Maintenant pour l'UFAB, c'était une grosse semaine pour les Angevines qui, dans un premier temps, affrontaient Galatasaray à domicile, finaliste de l'Eurocoupe la saison dernière. Et c'est malheureusement une défaite d'un tout petit point, 70-71. Cédric, t'étais présent en direct à Jambouin pour voir le match. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation des Angevines?
On n'a pas le droit. En ce moment, toujours une histoire d'un point. Non, franchement, très beau match, que ce soit dans l'ambiance générale ou sur le terrain.
Ouais, les Angevins ont répondu présent.
Ça a bien répondu. Le public était là. Même le public de Galatasaray, il est connu en foot, mais même dans tous les sports quasiment.
Pour ces ultras,
ouais, et encore ultra, je trouve que c'est un mot tellement faible. C'est impressionnant. Ils sont sur pile pendant plus de 90 minutes. Enfin, c'est avant, c'est après. Enfin, c'est impressionnant de les voir. Donc ça a mis une grosse ambiance d'entrée de jeu. Le public, voilà, en juin, du coup, a bien répondu. Sur le terrain, écoute, on a vraiment un scénario qui tenait en haleine.
Hein. C'était ça tout le match.
Ah ouais, ça a été serré quasiment tout le temps. Enfin, on part bien avec une dans le premier quart une Galacante très très présente qui score tout ça. Enfin, j'étais impressionné de voir son évolution
par rapport à ça,
entre le dernier match qu'on avait vu ensemble et là ce premier match donc, du coup que je voyais. Après, tu vois, je pourrais pas vraiment te citer une joueuse qui sort du lot sur ce match-là, sans parler des stats, parce qu'avec les stats c'est plus facile, effectivement, de le constater. Mais moi, j'ai trouvé une équipe effectivement très soudée.
Ouais, c'était un collectif.
On sent que la patte défensive elle est beaucoup plus présente qu'avant. Ça va chercher des ballons, ça défend bien, ça quand il faut taper pour ressortir la balle pour les rencontres.
Ouais, j'imagine qu'en plus contre une équipe comme Galatasaray, faut ça joue un peu du coude, ça joue un peu de son corps, etc.
Ouais, c'est ça. Puis enfin, ils avaient une, je crois que c'est la numéro 33 qui comme ça paraissait pas impressionnante, mais qui te mettait des 3 points, mais lunaire. Enfin, c'est de toute façon, bah voilà, le match il se perd sur un 3 points, mais. Enfin, ouais. Je le voyais pas venir. Elle l'a sorti d'un coup, paf, ça rentre. Et derrière, bon, il reste pas grand chose au buzzer, quoi, pour aller tenter quelque chose. Et après, bon, peut-être des petits regrets, je trouve, sur le dernier quart. J'ai l'impression que le jeu était plus physique du côté de Galatasaray et que certaines fautes ont pas été forcément sifflées.
Ouais, des fautes. Ouais.
Au niveau de la raquette, enfin des
qui aurait pu amener à des lancers.
Ouais, je pense. Enfin, juste avant l'action finale, pour moi, il y a sûrement une faute. Après, bon, c'est pas évident. Hein, quand on est dans les tribunes,
ouais, c'est différent,
on est quand même proche du terrain comparé à d'autres sports. Mais tu vois, quand t'as pas l'habitude de savoir où et quand il y a de faute, c'est pas évident. Après, dans l'ensemble, voilà, ça joue pas que là-dessus. Hein, c'est Par contre, elles ont fait un gros match.
Ouais, perte de 1 point.
Voilà, c'est ça. Enfin,
un match tout serré contre Galatasaray.
À 2 minutes, je crois que c'est à 2 minutes 30, il y avait plus 6.
Ah ouais, on aurait pu.
Donc voilà, ça s'est joué vraiment pas grand chose. Ça... Mais c'est bien, je pense qu'il y a eu des gros enseignements là-dessus. J'ai entendu un petit peu le discours du président après le match. Il était quand même, fier de ce qu'il a vu, comme il dit, hein, si pour lui, enfin, il voyait pas forcément Angers taper comme ça Galatasaray. Et pour lui, ça aurait été une fierté effectivement de les battre, surtout que voilà, Galatasaray finaliste
l'année dernière,
donc puis bon, multiple palmarès.
Ouais, c'est un gros club européen.
C'était un gros club européen et d'avoir eu un match comme ça, c'est quand même encourageant pour sûrement la suite de la saison. Et puis pour l'Europe.
Oui, carrément, parce que là, c'est clairement le plus gros adversaire qu'elles aient eu à affronter depuis le début de la saison,
Puis même
en Europe, évidemment.
Même depuis l'année dernière.
Ah ouais, tu penses que même l'ASVEL, quand elles les ont affrontées.
L'ASVEL, c'est différent, on a l'habitude de les jouer en saison.
Ouais.
C'est pas la même chose, tu vois.
L'Europe, c'était.
Mais là, t'as vraiment un club historique, tu vois. Mmh. C'est bon, l'ASVEL aussi, hein. Mais c'est pas le.
Ouais, c'est que l'ASVEL est un club français.
Voilà, je pense que à l'international, on te citera plus facilement Galatasaray que l'ASVEL en premier choix comme club européen dominant.
Et voilà. Donc voilà. Ça reste une belle performance.
Un très beau match quand même.
Match très encourageant pour notamment le match qui a lieu jeudi, nouveau match d'Europe contre Constanta en Roumanie. Donc voilà pour les Angevines. Elles ont ensuite joué un match contre Villeneuve-d'Ascq. Une nouvelle défaite 89-67. Les Angevines qui, à mon avis, devaient être usées physiquement et mentalement après la défaite contre Galatasaray, mais bon, on va retenir, j'allais dire, surtout le match contre Galatasaray, qui a priori a été un excellent match. Ensuite, pour Cholet, c'est une grosse défaite pour les hommes de Laurent Villa en Ligue des Champions, 95-75 face à Tenerife. Mission ensuite très bien rattrapée dans le derby des Pays de la Loire face au Mans, un match allant jusque dans la prolongation. Et c'est notre jeune Tidjane Salhoun qui plante un gros 3 points à 30 secondes de la fin, climatisant totalement la salle du Mans. 88-85 en score final. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux Choletais et qui nous montre une fois de plus que Tidjane Salhoun est un jeune garçon, mais qui arrive à prendre ses responsabilités quand il le faut et qu'il le fait très bien. On va maintenant passer aux Ducs qui ont enchaîné les victoires cette semaine. La première contre Anglet et la deuxième contre Nice. Ils se placent à la première place du championnat, mais Rouen un match de retard. Donc on va dire que ça ne veut rien dire, même si c'est déjà excellent pour les Ducs qui commencent très bien leur saison, Cédric.
Ouais, en termes de timing, oui, là, c'est un bon départ des Ducs, hein, je pense que ça faisait un moment qu'ils ont été aussi haut, aussitôt dans la saison. Généralement, on est plutôt quand même vers la troisième ou quatrième place dans cette période-là. Il y a quelque part la même forme de Grenoble, et encore, c'est somme tout relatif, hein, parce qu'ils sont pas si loin que ça au classement. Et quand j'ai regardé, ils avaient un match en retard aussi.
Ouais, je crois que le match, d'ailleurs, c'est Rouen-Grenoble, le match en retard, il me semble.
Voilà, donc, enfin, ça peut se rattraper de leur côté. Mais, non, en tout cas, ça fait plaisir. En termes de score, on est quand même régulier.
Ouais,
si on regarde, ça score pas mal quand même cette année, j'ai l'impression un peu plus que l'année dernière.
Ok.
Après, voilà, on a sûrement, une défense aussi qui s'est améliorée, parce que derrière, on voit quand même, on encaisse très peu de buts.
Ouais,
on a quand même un gardien qui fait pas mal d'arrêts, tout. Enfin, c'est bien aussi, je trouve, pour sa progression, ça prouve aussi son niveau. S'il y avait des gens qui doutaient encore de lui, voilà, je pense que là, pour l'instant, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Et puis, c'est surtout là, ce soir là, que ça va. Enfin, demain soir plutôt.
C'est
ce soir, on est le 24.
Ouais.
Ce soir, on renoue un peu avec nos amours.
Le match qui a commencé d'ailleurs. C'était à 20h qu'il commençait.
C'était à 20h du coup. Ouais. En tout cas, j'ai pas eu d'alerte sur l'application, mais. Voilà, on retrouve la Coupe de France ce soir. En plus, j'ai envie de dire quasiment à domicile. Hein, on n'est pas si loin de chez nous, puisqu'on joue contre Cholet.
On a déjà joué, c'est ça, il me semble, l'année dernière. Fin de saison.
Je sais plus.
Pour des matchs, parce que l'Ice Park était.
Y avait oui. L'année dernière, oui. Il y a eu quand il y a eu les Mondiaux de patinage artistique. Il y a eu deux ou trois matchs délocalisés à Cholet.
Donc c'est une patinoire qu'on connaît bien.
Voilà, oui, et puis même il y a souvent des matchs de préparation là-bas avec les Choletais. Donc on espère que ça passe. Hein,
normalement, ça devrait passer.
Ouais. On ne sait jamais. Hein, c'est toujours compliqué parce que
oui.
Cholet sont loin d'être mauvais non plus. Hein, donc on va surveiller ça. Hein,
c'est normalement un tour qui devrait être passé. Sans difficulté pour les Angevins. En tout cas, on leur souhaite. Je vais maintenant passer à ma petite chronique qui va nous parler d'e-sport avec la Carmine Corp, dont j'avais déjà parlé pour nos plus fidèles auditeurs. Jeudi dernier, c'est Kameto, le président de la Carmine Corp, a annoncé l'arrivée de son équipe de League of Legends en LEC. Alors ça vous dit sûrement rien quand je vous le dis comme ça. C'est pour ça que je vais vous montrer en quoi c'est un événement majeur dans l'e-sport français. D'abord, la Carmine Corp, qu'est-ce que c'est? C'est une structure d'e-sport qui comporte plusieurs équipes professionnelles dans différents jeux. Ici, on parle du jeu League of Legends, qui est facilement dans le top 3 des jeux les plus regardés dans le monde, c'est même le top 1. Ensuite, la LEC, c'est la ligue majeure européenne de jeux. Cependant, c'est une ligue fermée, un peu comme on a vu avec le projet de Super League dans le foot, où c'est une ligue où les places sont payantes, où il y a un nombre de places limité, etc. Et ça fait 3 ans que la Carmine tentait de l'intégrer, mais une place dans cette ligue coûte premièrement extrêmement cher, et de plus, il fallait qu'une équipe déjà présente dans la ligue veuille vendre sa place. Ici, c'est l'équipe d'Astralis qui a vendu sa place au profit de la Carmine. Leur place dans cette ligue leur permet de potentiellement arrivé au championnat du monde dont il n'avait pas l'accès dans la ligue LFL c'était la ligue française dans laquelle elle évoluait avant. Et ainsi, elle pourrait être la première structure française à participer au championnat du monde de League of Legends, ce qui fait une très grande avancée dans l'e-sport français et mondial même. Et c'est un aboutissement du projet que lancé donc par Kameto et Prime, qui sont les deux cofondateurs de cette structure, qui peuvent tout simplement accomplir leurs rêves, j'ai l'impression.
Oui, parce que il y avait déjà eu peu de temps avant une grosse annonce aussi de la part de Kameto, qui voulait que ses équipes aient un lieu bien ancré à eux, que la marque, entre parenthèses, parce qu'on peut pas parler vraiment encore de marque ancré dans les états d'esprit, mais en tout cas que la Carmine Corp soit reconnue, ait un lieu voilà de rassemblement pour tout le monde. Et il y a le projet voilà de du stade.
Bah c'est fait même.
Voilà, oui, oui.
C'est en cours de construction.
Voilà, c'est ça. Enfin, et bah, il y a quelques années, c'est vrai qu'il a il a pris le train quand il fallait pour,
ouais, ça.
Pour se lancer là-dedans. Il a eu la chance aussi de trouver les bons joueurs au bon moment.
Ouais,
ça a marché quand même relativement assez vite.
Ouais.
Donc non, c'est plutôt encourageant. Après, on va voir parce que là, ça va être quand même un étage.
Ouais,
la marche pour aller à cet étage-là est quand même
colossal.
Voilà, c'est une ligue fermée. Les équipes se connaissent vraiment. Eux, ils vont arriver, et c'est sûr, ils vont être scrutés. Enfin,
ouais, c'est le petit nouveau.
Voilà,
personne ne va vouloir leur laisser de place, quoi.
Je sais pas quel pays est le plus représenté dans cette ligue européenne.
Il me semble que c'est l'Allemagne.
Ouais. Mais on sait que, par exemple, s'il y a des Espagnols, ça va tout de suite monter en derby. Parce que dans tout ce qui est dans e-sport,
Sur internet en général.
Et voilà, c'est enfin les
sur internet.
Ouais. Les Espagnols sont très pas vénales, mais très virulents. Enfin, ouais. Enfin, si, ils sont aussi vénales parce que
c'est la guerre.
Ils veulent récupérer aussi l'argent qui va avec, et c'est c'est un peu le nerf de la guerre de l'e-sport. Mais non, en tout cas, voilà, ça fait plaisir. On a d'autres équipes qui performent bien aussi. En e-sport, donc
soit pas que dans League of Legends.
Voilà, oui, oui, c'est pour ça que je fais une généralité. C'est bien parce que voilà, ça va permettre de voir comment ça se passe pour une équipe, et puis on verra peut-être que un jour cette ligue-là va être un peu plus ouverte, on va peut-être avoir des nouvelles places qui vont être créées, il y en a peut-être d'autres qui partiront, ça nous sera peut-être une chance d'avoir une autre équipe française, voilà. Et puis, ce qu'on leur souhaite, c'est d'aller le plus vite possible aussi au World. Et ça, c'est encore, là, c'est plus une marche, c'est.
Ouais, ça, c'est.
Bon, faut prendre l'ascenseur, là, pour y aller, là, mais c'est. Non, mais en tout cas, ça va encore exploser, je pense, les chiffres d'audience sur Twitch pour les matchs de la Carmine, et ça va être bien parce que ça fait avancer tout le monde, en fait.
Ouais, ça,
et surtout, parce que, je suis pas forcément un grand viewer de Kameto, mais c'est ce que j'aime chez lui quand je regarde ses lives. Il reste quand même humble, voilà. Enfin, il sait canaliser sa fanbase, tout. Donc,
mais sa fanbase qui est d'ailleurs
mais ils sont très 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 à fond derrière. Des fois un peu trop.
On parle de Galatasaray.
Ceux
de la Carmine sont pas mal.
En termes d'e-sport, ouais, on pourrait un peu les comparer.
C'est vrai. Avec pareil, certaines fois sortir des fumigènes, etc.
Oui,
dans les salles, enfin bref,
tu même c'est ultra. Tout le côté autour de la mascotte, enfin
ouais,
ça reste bon enfant en tout cas, c'est cool parce que voilà,
débordement,
non, c'est ça. Puis en plus, enfin, ça va se continuer parce que c'est une génération qui a vu naître l'e-sport, qui a commencé à le suivre, et en fait qui a commencé à le suivre cette équipe, et qui est toujours là. Donc ça aussi, c'est important pour continuer à garder les valeurs de la Carmine et puis la valeur naturelle de l'e-sport, quoi.
Ah ouais, et ça a l'air d'être plutôt bien parti. Voilà pour en ce qui concernait l'e-sport. On va maintenant passer à la pause musicale que tu vas nous présenter, Cédric.
Ouais, bah du coup, je suis resté un peu, tu vois, dans ton thème. Du coup, j'ai mis une musique des Worlds, donc le grand championnat du monde de League of Legends. Ça s'appelle Warrior, c'est fait par Imagine Dragon, donc on a l'habitude de connaître aussi pour d'autres événements sportifs, donc on va rester dans le thème.
As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Yeah.
spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my life.
Il est 20h31, vous êtes toujours sur les antennes de Radio G, vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou depuis le www.radio-g.fr ou bien encore depuis les applications du DAB+. On va passer maintenant aux actualités internationales et Clément, tu vas démarrer par nous faire un récap de ce qui s'est passé en Ligue 1.
Ouais, c'est ça. Donc petit récap de ce week-end. Donc pour commencer, vendredi soir, il y avait un match entre Lens et Le Havre et ça s'est soldé par un triste 0-0. Ensuite, le PSG qui joue demain en Ligue des Champions face à l'AC Milan, mais on va revenir là-dessus tout à l'heure, a assuré face à Strasbourg en s'imposant facilement 3-0. Ensuite, Nice gagne 1-0 face à Marseille dans le derby de la Côte d'Azur. En Bretagne, dans un autre match qu'on peut qualifier de derby, Lorient arrive à créer un petit exploit en battant Rennes, puisque Rennes avait très bien débuté la saison et était très bien, et Lorient pas forcément. Donc il gagne ce match 2-1. Ensuite, le match entre Toulouse et Reims se solde par un nul, un but partout. Le LOSC bat Brest 1-0 et Brest qui coule un petit peu après un début de saison réussi. Les Brestois n'arrivent pas à relancer la machine. Nantes, eux, continuent sur leur lancée en s'imposant 2-0 face à Montpellier. Ensuite, il y a eu Monaco qui garde sa première place grâce à une victoire à la maison face à Metz sur un score de 2-1. Et je sais pas si vous avez vu le but du Messin de 58 mètres.
Ouais, ça, je l'ai vu.
Alors c'est très dur de voir les buts maintenant puisque la LFP a tendance à bloquer les vidéos qu'on peut voir sur le net.
Ah bon?
Ouais.
Je l'ai vu sur Twitter.
Ah bah t'as vu du pot parce que moi j'ai essayé de le trouver. C'était compliqué.
Bah, sinon, sur les résumés, souvent...
sur YouTube, ouais. Il doit y être.
Mais ouais, c'est dommage qu'on puisse plus accéder comme ça. Enfin...
Oh, je sais pas, moi, j'ai pas eu l'impression. Bon, bref. Pour finir, petite pensée à notre Alex. Et s'il nous écoute, on lui envoie de la force, puisque ça y est, Lyon est dernier. En s'inclinant hier face à Clermont, avant-hier, pardon, face à Clermont, qui était lui-même dernier. Lyon se retrouve au fond du gouffre à cause de cette défaite 2-1. Et puis, voilà, c'est la continuité du début de saison pour Lyon. Et puis, ça fait mal.
Et puis, surtout que c'est dans un petit derby. Enfin,
Et surtout que il y a une très grosse erreur d'arbitrage pour moi. Mais je sais pas si vous avez vu les images.
Non, j'ai pas
sur
vu,
le
pas.
Premier but de Clermont, en fait c'est
il a fait une enrichie, c'est sur celui-là, non?
Ouais,
c'est ça, oui.
c'est un Clermontois qui demande la balle en profondeur et le ballon lui passe par-dessus et tu te demandes comment il peut la contrôler et là il a planqué clairement des deux mains, il met ses deux mains, il fait un panier et il laisse passer le ballon et puis la VAR revient même pas dessus, enfin bon.
C'est dans le camion, ça pas...
Alors que ça se voit clairement qu'il y a main, donc bon, un petit peu litigieux.
Voilà. Tout pour faire sombrer les Lyonnais.
Ouais, on a l'impression.
Ouais, et puis le malaise au final il est beaucoup plus qu'il peut ne le paraître, hein, puisque sur le terrain on voit que c'est pas terrible. C'était le quatrième match du nouveau coach, je crois.
Ouais, je sais pas.
Ça fonctionne pas. Il y a l'air d'avoir des tensions dans les vestiaires.
Au bout d'un moment, c'est normal, je pense.
Et là, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça va pas aider non plus le groupe, suite à une déclaration de Jérôme Roten dans son émission, comme quoi, voilà, que les cadres et beaucoup de joueurs ne le suivaient plus, l'entraîneur. Ils avaient entraînement normalement aujourd'hui. Ils se sont retrouvés en huis clos dans les vestiaires avec le coach qui a voulu savoir qui avait balancé. Donc, c'est bien, on retrouve les fameux stops. Et total des choses, entraînement annulé avec un mot de l'entraîneur qui sentait la... Comment on dit la... Le côté, voilà, c'est bien, vous allez pouvoir vous reposer aujourd'hui, on se revoit demain. C'est, voilà, donc le malaise est beaucoup plus ancré que ça, je pense, à Lyon. On a quand même eu aussi la déclaration qui est quand même hallucinante de leur président, comme quoi, non, c'est une équipe qui n'ira pas en Ligue 2, qui va être plus haut dans le classement.
Ouais. Ça joue l'Europe, hein, Lyon, je pense.
Ouais, non, mais c'est là que tu te dis, écoute, vends le club ou mets quelqu'un qui s'y connaît à ta place. Ouais, toi, donne les billets, mais je suis pas un grand amateur de Lyon, mais bon, j'ai connu le grand Lyon, voilà, qui dominait la Ligue 1. Et quand tu vois un club comme ça s'effondrer, enfin, ça fait toujours mal parce que ça fera mal à l'indice UEFA, ça fera mal aussi, voilà.
À l'image
du club, enfin, c'est.
L'image de la Ligue 1 aussi.
Ouais.
Pas forcément de la Ligue 1, mais
C'est quand même un gros club.
Je pense que la Ligue 1 va s'en remettre plus facilement que Lyon, tu vois.
Oui, sûrement. Parce qu'il y a pour eux d'autres clubs, mais bon, ouais. Lyon, c'est clair qu'ils vont avoir du mal à se relancer.
Donc, on verra bien demain comment va se passer l'entraînement, s'il a lieu. Mm-hmm. Puis c'est surtout, il y a quand même le match de ce week-end qui est quasiment coché depuis longtemps sur le calendrier. Et logiquement, c'est là que tu dois faire un gros coup pour te relancer.
Ouais.
Pour Lyon, ça va être compliqué.
Les matchs sont bons à prendre là, vu dans leur situation.
Ah bah oui.
Ouais, mais
c'est
nul. Ça va être le derby des Olympiques et on sait que y a quelque chose derrière d'important, quoi.
Ouais. On va bien voir.
Voilà ce qui est du cas de Lyon. On va maintenant passer sur la Ligue des Champions parce que ce soir et demain soir c'est match. Ce soir on a le match Lens contre le PSV. C'est à mon avis l'adversaire le plus faible de la poule de Lens. Donc ils ont de quoi se mettre plutôt à l'abri dans leur poule si en fonction du résultat du match d'Arsenal contre Séville. Mais si les Lensois l'ont fait contre Arsenal, il y aura pas de problème contre le PSV.
Et je peux peut-être donner la compo, ça peut intéresser des gens. Donc Lens évolue en 3-4-3, c'est habituel, on peut dire ça comme ça. Donc Brice Samba capitaine au but, ça bouge pas. Ensuite une défense à 3, Gradit, Danso, Medina, ça bouge pas non plus. Frankowski à gauche, Machado à droite. Abdoul Samed et Mendy pour les deux centraux. Et en attaque, on a Sotoka, Wai, Fulgini, notre angevin qui est titulaire, ça fait plaisir.
En tout cas, match pareil, sous haute surveillance. Hein,
ouais.
Parce que les supporters du PSV Eindhoven sont connus pour être des gentils garçons et ça et là ça a déjà commencé avant le match donc ouais. On espère que ça va pas non plus perturber le pendant le match surtout quand on connaît l'ambiance qu'il y a à Bollard quoi.
Ce serait très dommage.
Surtout on espère une victoire qui mettrait bien.
Ouais. Ce serait sortirait premier après les phases aller.
Voilà, ouais.
Ce serait une bonne performance pour leur retour en Europe.
Le match d'après, ce sera à nouveau contre
PSV.
Contre PSV, c'est ça. Potentiellement, voilà, il y a deux victoires qui peuvent être faciles sur le papier et qui valideraient presque une deuxième place, quoi.
Exactement. Demain, il y aura un autre club français qui jouera, ce sera le PSG qui affrontera Milan. En cas de défaite, le PSG sortira des places qualificatives pour aller dans les huitièmes.
Ah, c'est sûr.
S'ils perdent, ouais. Enfin, non, ce sera pas sûr, mais s'ils perdent, là, ils sont deuxièmes, s'ils perdent, ils seront troisièmes.
Ah oui, d'accord. J'avais pas pris ça.
Ce sera à l'instant, après le match, quoi. Oui. Ils pourront évidemment monter, mais ce sera déjà un peu plus dur. Mal barré que Lens, quoi. Et si le PSG passe pas en huitième, ce serait la catastrophe français. Là, on parlait de l'image de la Ligue 1. Ce serait la Farmers League, vraiment, serait mérité, j'ai envie de dire. Pour la Ligue des Champions. Ah. Tu voulais la compo?
Non, je voulais juste dire un petit mot parce qu'il y a eu deux matchs qui se sont joués. Il y a le Bayern qui a battu facilement Galatasaray. Et qui est presque qualifié, je crois déjà.
Ah, déjà.
Juste si Copenhague perd, je pense qu'ils sont déjà qualifiés. Et puis l'Inter Milan a battu 2-1 Salzbourg et se classe premier de sa poule. Donc voilà,
c'est pour ce qui est de la Ligue des Champions. La semaine dernière, on a eu un match de l'équipe de France. C'était contre l'Écosse. Victoire assez facile, 4-1. On s'est fait peur quand même au début du match en encaissant le premier but, mais heureusement. Benjamin Pavard est arrivé, il nous a planté un doublé
premier
de la tête.
Premier poteau Pavard.
Ouais, exactement. Doublé de la tête, la bonne touffe de Pavard. Enfin non, même s'il a plus trop de touffe. Non, ouais. Mais il a libéré l'équipe de France. Et après, on a déroulé le match tranquillement. Les gars, je sais pas si vous avez pu le voir, mais.
On a bien rompiche.
Ouais, quand même.
C'est vrai. C'était pas. Le problème, c'est que c'est bien, Pavard, là, il s'est réveillé, mais bon.
On va en avoir pour 3 ans.
Est-ce que au prochain match il sera aussi efficace?
Là il était central plutôt que à droite. Moi je pense que c'est un bon choix de Didier Deschamps.
Moi j'ai préféré
le conserver là-dessus. C'est son poste naturel. C'est là à mon avis où il est plus performant. Voilà pour ce qui est du football. Je vais maintenant passer à la F1. On avait le Grand Prix des États-Unis ce week-end avec Verstappen qui a encore une fois fini premier et on a eu un fait de course après la course. J'ai envie de dire c'est avec l'élimination de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Cédric, sur cette élimination?
Ouais, alors c'est compliqué. En fait, il y a dans le règlement de la F1, vous avez une planche sous la voiture qui doit faire tant de centimètres pour être réglementaire. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il y a 4 voitures qui sont contrôlées de façon aléatoire à la fin du Grand Prix. Donc là, il y a eu Hamilton finissait deuxième de base et Charles Leclerc qui était de mémoire sixième, je crois. Voilà. Et je sais plus les deux autres, mais enfin, ça change pas grand chose. Donc, ils ont contrôlé l'épaisseur de cette planche. Et alors, il s'avère que pour Charles Leclerc, apparemment, ça se joue à quelques millimètres.
Donc, dommage.
Quasiment rien pour Lewis Hamilton, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour la même raison, c'est par rapport à l'usure. Donc, ça pose un petit peu. Alors, le règlement a été appliqué, on peut rien dire, il y a des cotes, je pense qu'il y a quand même de base une tolérance, c'est peut-être à 1 cm ou tant de millimètres d'autorisé de dépassement en plus ou en moins. Sauf que ce qu'on a appris un peu dans les déclarations des équipes, c'est qu'ils expliquaient qu'apparemment ce serait lié au bouncing. Le bouncing, c'est quoi? C'est quand la voiture rebondit un peu sur la piste. Donc ça peut être soit parce qu'elle passe trop sur les viewers, soit même sur l'asphalte qui peut avoir des creux, des bosses et la voiture saute. Donc, ou un réglage de la voiture aussi
trop bas.
Bas. Donc ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être d'élargir le contrôle sur plusieurs voitures.
Ouais. Parce que toutes les voitures n'ont pas été contrôlées.
Non, c'est toujours quatre voitures à l'arrivée au hasard. Enfin, parce qu'ils contrôlent aussi, par exemple, la quantité d'essence minimale qui doit rester dans la voiture. Ils contrôlent aussi les pneus. Enfin, il y a plusieurs choses.
Ok.
Donc ça, en soi, le règlement est appliqué. On peut rien trop dire, mais je pense qu'il va falloir réfléchir en profondeur, parce que bon, ce qui aurait été bien dans ces cas-là, c'était peut-être à titre préventif, dans ces cas-là, contrôler toutes les voitures, voir si c'est pas en fait dans la conception de
du circuit.
Parce que ce qui est un petit peu embêtant dans cette histoire-là, c'est que leurs deux coéquipiers, par exemple, ont logiquement une voiture qui doit être quasiment identique. Ils restent dans les points. Donc, est-ce que eux, la voiture était réglée différemment? Enfin, il y a plein de petits trucs.
Ouais.
C'est là un fait de course, mais bon, on a eu beaucoup trop de soucis, je trouve, avec le règlement cette année pour les Grands Prix. On sait que voilà, puis ce week-end en plus c'était encore un week-end compliqué puisque c'était un week-end de sprint, sprint remporté par c'est Verstappen qui gagne, je crois, le sprint. Enfin, c'est, mais voilà, enfin c'est la FIA, va falloir qu'il, je pense, se pose la grosse bible avec tout le règlement, qui retravaille certains points, parce que on peut pas continuer une saison de plus avec des ondes d'ombre, des ondes gris. Enfin, c'est compliqué, quoi.
C'est dommage.
Donc on verra dès ce week-end si ça va prendre des décisions par rapport à ça au Mexique. Ouais,
tout à fait. Voilà, c'est pour ce qui est de la F1. On va maintenant passer au tennis, où on a deux Français qui ont fait plutôt bonne perf, avec d'abord au tournoi de Anvers, le Français Arthur Fils a réussi à aller jusqu'en finale après avoir vaincu en demi Tsitsipas, qui est septième au classement ATP. Mais la plus grosse perf, c'est Gaël Monfils, qui remporte son 12e titre en remportant le tournoi de Stockholm et retrouvant ainsi le top 100 au classement ATP, ce classement à la 86e place, il me semble. Voilà, ça fait plaisir de revoir un peu de tennis français gagner, tout simplement. Ça fait du bien, j'ai envie de dire.
Mmh. Et puis on a appris que du coup Fils va avoir un nouvel entraîneur.
Ah oui.
Oui, du coup, c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Arnaud Clément, il me semble, qui va du coup l'entraîner.
D'accord. Bah,
donc du coup, il y aura un nouveau sélectionneur de l'équipe de France.
Pour la Coupe Davis.
Bah
super, en espérant que ça lui porte, enfin que ça lui fasse réussir. Voilà, on va maintenant passer au rugby avec Clément qui va nous résumer les deux demi.
Vite fait, parce que bon, maintenant, on n'est pas un peu chauvin, mais ça nous intéresse pas autant qu'avant. Donc, la finale est désormais connue. Ce sera les All Blacks face au Sudaf. Tout simplement parce que les All Blacks ont battu facilement l'Argentine. On se demande ce qu'ils faisaient là, d'ailleurs. 44-6. Rien à redire sur cette première demi-finale. Sur la deuxième, un peu plus de choses à dire, puisque ça s'est joué à une histoire d'un point face aux Anglais, encore une fois.
Déjà
un
vous.
Ce match s'est soldé par une victoire du coup des Sud-Africains, et 16-15 dans les dernières minutes du temps réglementaire, les Sud-Africains arrivent à obtenir une pénalité, et à la 78e, je ne connais pas son nom, il a transformé cette pénalité et a permis aux Sud-Africains de se rendre en finale, qui se jouera samedi soir à 21h au Stade de France, et donc sans équipe européenne, qui était pourtant les meilleures ces dernières années pour moi.
Ouais.
C'est surtout que, sur ce match-là, on a quand même revu des erreurs d'arbitrage comme avec l'équipe de France. Je sais plus si c'était avant ou après ce match-là, où il y a la fédération de rugby qui a admis.
C'est toujours le match.
C'était
vrai. Ils font un. Il y a d'autres arbitres qui font un peu un résumé de toutes les erreurs qu'il y a eu.
Ouais. Et ils ont quand même admis qu'il y avait au moins quatre décisions
Trois décisions pour les Français et deux décisions pour Sud-Africains.
Donc, ce qui prouve que voilà,
il y a eu des petits problèmes.
Il y a beaucoup de choses à revoir, je pense, dans l'arbitrage mondial et surtout dans le système d'incorporation des arbitres.
Mais bon, après, je pense, c'est un peu dans tous les matchs de rugby, il y a tellement d'interprétations et tout. Ouais. Après, c'est pas pour défendre les arbitres.
Là, si tu veux, t'as quand même t'as un arbitre deux fois de suite qui refait
des erreurs.
Les mêmes erreurs, tu vois. Et pour la même équipe,
il y a un truc bizarre.
On sait qu'en plus, l'Afrique du Sud, au-delà de ça, est un peu dans le collimateur aussi la fédération de.
Avec le dopage.
Avec le, voilà, des, alors, la mise, on va dire, aux normes des. Ouais. Des tests de dopage, tout ça. Donc, je pense pas que voilà, les joueurs sont en soi coupables de ça. Ils font leur taf, mais bon, ça gâche un peu leur parcours, quoi.
Ouais, ça gâche le plaisir de voir des matchs. Voilà pour ce qui est de toutes les actualités. Maintenant, je vais passer à ma preview.
Il y a une petite que je voulais rajouter, c'est que on a une équipe de France qui est devenue championne du monde.
Oui, c'est vrai.
Ce week-end, en Australie, ça a été très peu relayé, hélas. C'est que notre équipe de foot, donc en fauteuil, est devenue championne du monde pour la deuxième fois consécutive, avec 11 victoires sur 11 possibles.
Ah oui. Ouais.
Avec, je crois, une quarantaine de buts. Enfin, c'est.
Ah oui, c'était super. Le foot français brille sous tous ses aspects, en fait.
Bah, c'est ça, puis c'est, ouais, voilà, on, hélas, je trouve ça dommage encore une fois que, on les a pas mis plus, en avant. On peut dire merci pour une fois les réseaux sociaux qui en ont parlé. Mais, voilà, c'est un peu dommage que certains médias, surtout en plus en une année où on est dans les JO.
C'est vrai.
Où on va mettre en avant le monde paralympique. C'est, puis je sais pas d'ailleurs s'il y a pas une équipe de foot pour les JO paralympiques, donc voilà, c'est un peu dommage de pas mettre en avant cet exploit, quoi.
Heureusement que t'es là pour en parler. Voilà, du coup, bravo à nos Français. Je vais donc passer, comme je le disais, à la preview maintenant de la saison NBA qui reprend ce soir à 1h30 avec le match Denver contre les Lakers, où les joueurs de Denver vont recevoir leur bague de champion, la première de la franchise. Puis à 4h, le match opposant les Golden State Warriors de Stephen Curry aux Phoenix Suns de Kevin Durant. L'occasion pour moi de vous expliquer les enjeux de cette saison. Premièrement, qui sont les favoris au titre cette saison? Alors, je dirais que à l'Est, on a deux équipes qui se distinguent. Ce sont les Bucks avec le duo Giannis Antetokounmpo et Damien Lillard dont j'avais parlé récemment, ainsi que les Celtics qui cette année peuvent peut-être conclure plusieurs années de bonnes saisons avec un Jason Tatum qui peut nous sortir une saison de niveau MVP, je pense, et amener ainsi son équipe à la victoire. À l'Ouest, il y a un peu plus de concurrence. Je mettrais trois équipes qui sont vraiment au-dessus du lot. Premièrement, on a Denver qui est en recherche d'un back-to-back et de la confirmation de cette équipe. Ils ont fait le choix justement de la continuité en changeant très peu leur effectif. Et si Jokic fait la même saison, je ne doute pas de la réussite de l'équipe. Ensuite, on a les Suns armés d'un Big Three composé de Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Le gros bémol de cette équipe, c'est le manque de profondeur de banc. Le 5 majeur va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutes, ce qui risque de les épuiser. Et j'ai un peu peur que cette équipe soit très bonne en saison régulière, mais il galère vachement dans les playoffs. En troisième équipe, je mettrais les Warriors qui, s'il n'y a pas de blessure, ce serait à mon avis la seule chose qui pourrait les stopper, reste comme tous les ans un gros contender au titre avec Stephen Curry toujours présent pour mettre des 3 points, Klay Thompson toujours là pour mettre ses 3 points aussi, et Draymond Green pour assurer la défense. La nouveauté aussi de cette saison, c'est le In-Season Tournament. Alors honnêtement, c'est une nouveauté très compliquée à expliquer, qui mériterait une chronique à part entière, donc je vais pas me risquer dans des explications à perdre tout le monde. Mais en tout cas, sachez que ça va être quelque chose de très intéressant et très important dans cette saison. Pour résumer, en gros, c'est quand même un tournoi un tournoi ultérieur qui va pas compter dans la saison régulière, mais qui va avoir lieu pendant la saison régulière avec un Final Four qui aura lieu à Las Vegas. Une autre chose que...
Décidément, Las Vegas très à la mode hein, ces derniers temps.
Oui, avec la bulle, etc.
La sphère, enfin, même différents événements sportifs. Oui,
ouais, tout à fait. Voilà, une autre chose aussi qu'on va suivre de près, c'est évidemment Victor Wembanyama, comment ne pas en parler. Et je pense que de nombreuses personnes vont se mettre à suivre la NBA juste pour lui.
Et
voilà, on pourra en parler dans les prochaines émissions du coup. Et dès la nuit de mercredi à jeudi, on aura le droit à son premier match officiel de NBA. Ce sera face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic. J'ai hâte de voir comment il va se développer, que ce soit offensivement ou défensivement. Il a moyen de péter des records et de vraiment révolutionner la NBA. Et honnêtement, je pense qu'à lui seul, il peut porter les Spurs en playoff, même si l'effectif des Spurs est léger. Victor Wembanyama, il a encore un truc. Il a les épaules.
Sur le dernier match de préparation, on l'a vu polyvalent, quoi.
Il a déjà fait des highlights. Après, c'est les matchs de préparation, c'est quand même pas très différent de ce qu'on peut voir en NBA dans la saison régulière, parce qu'il y a la fatigue qui entre en compte, etc. Mais dans les premiers matchs, il se rassemble en flambe en neuf, et après, ça risque d'être plus compliqué pour lui quand même, parce que ça fait bizarre de passer de la bête Likalite à 82 matchs, plus les playoffs, plus le in-season tournament. Ah, ça va être bizarre.
Là, je crois qu'ils ont prévu de le ménager à peu près tous les 3 ou 4 matchs. Il serait.
Le problème, c'est qu'il y a maintenant aussi en NBA des nouvelles règles qui sont arrivées sur justement le load management, où il n'y a pas le droit de reposer une star quand le match est rediffusé sur les antennes nationales, et il n'y a pas le droit de ménager 2 stars en même temps pendant un match. Donc voilà.
Ok.
C'est pour ça qu'il faut voir comment ils vont faire pour s'en sortir.
Money talk money, comme ils disent là-bas.
Oui, exactement. C'est vraiment le but de parce que souvent, surtout en fin de saison, où les équipes avaient tendance à mettre toutes leurs stars sur le banc et à en avoir rien à foutre. Et du coup, là, ce sera plus possible.
Ouais. Moi, je vous propose qu'on aille faire des études de médecine. Parce qu'à mon avis, il va y avoir du boulot auprès des équipes avec les différentes blessures. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus, hélas.
C'est fortement possible. Autre chose qui pourrait être intéressant à suivre, c'est les Français en NBA, avec notamment Rudy Gobert, Nicolas Batum, qui est sûrement sur sa dernière saison, Evan Fournier, qui n'est toujours pas parti des Knicks, dans lesquels il n'a pas trop de temps de jeu, et Bilal Koulibaly, qui sera très intéressant à suivre aussi. Voilà, une dernière date importante à retenir, c'est le 11 janvier. C'est le jour où aura lieu le NBA Paris Game. Et je vais pas vous cacher que je vais tout faire pour essayer de m'y rendre. Je suis déjà inscrit pour les préventes, etc. Car en plus de ça, ce sera pile le jour de mes 18 ans. Oh. Donc si je peux y aller, ce serait
un énorme cadeau.
Magnifique. Là, pour le match opposant les Cleveland Cavaliers ou Brooklyn Nets à l'Accor Hotel Arena à Paris.
Qui sera intéressant ou pas du tout?
Oh, si, c'est deux équipes assez intéressantes. Il n'y a pas de Français pour une fois dans aucune des équipes. Mais voilà.
Ouais, c'est peut-être la grosse erreur d'ailleurs.
Ce sera plein,
mais t'imagines, tu mettais les Spurs, ça a explosé tout.
Mais bon, il ne fallait pas prévoir l'avant. Je pense que c'est prévu plusieurs. L'affiche était annoncée avant la draft.
Ouais, je pense que de toute façon, oui, il y a des deals télé et tout ça. Enfin, c'est.
Donc voilà pour un peu cette preview de la saison NBA. Il est 20h58, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé une bonne émission en notre compagnie. Et je vous dis au revoir et
bon
à la
match.
Semaine prochaine. Et bonne Champions League.
Don't be Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul.